2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture, chaque parole entre Genèse et Apocalypse, chaque parole, chaque lettre, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiration, souffle, respiration, c'est inspiré, imbibé par l'Esprit de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, profitable, pratique, possible d'être appliquée dans nos vies pour enseigner, afin qu'on peut instruire. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait dans l'Institut biblique? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Instruction. Enseigner pour convaincre, pour avoir des convictions. Est-ce que nous avons des convictions ce matin? Est-ce qu'on a des convictions et les choses qui sont de Dieu et les choses qu'on n'accepte pas qui ne sont pas de Dieu? Donc on a des convictions. Et les convictions viennent de la prédication de la parole inspirée par Dieu, pas des avis, des opinions de l'homme. Pour convaincre, pour corriger, donc si on a besoin d'être corrigé, un parent corrige l'enfant, oui. Et nous, quand on fait des choses, le gouvernement nous corrige aussi. On ne corrige pas nos femmes, on ne corrige pas nos maris, on ne corrige pas nos amis. On ne corrige pas le pupitre aussi. Correction, discipline, c'est bien pour nous. Pour instruire dans la justice, l'instruction dans la justice de Dieu. Afin que l'homme de Dieu et femme de Dieu, chacun de nous, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comment je peux faire quelque chose pour le Seigneur? Parce que je suis équipé avec les bons outils. Parce que je suis équipé ici et je suis équipé là. Ça vient progressivement. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, ce n'est pas un problème. On va prendre le temps nécessaire. Si vous avez des questions après le coach, je suis là, je suis disponible. Pas juste de boire le café, je suis disponible pour discuter avec vous. C'est mon ministère. Je suis disponible pendant la semaine. Vous pouvez envoyer un message si vous avez une question. Pasteur, je n'ai rien compris de le message dimanche matin. OK, on va commencer avec le début. Mais voilà, c'est entre nous. Ce n'est pas juste un discours de moi. Je suis redevable devant vous. Je prépare un message et c'est à vous de poser des questions. Pourquoi ça? Je n'ai pas compris pourquoi Moïse a fait ça. Pose les questions. Demandez-moi. C'est un plaisir d'expliquer les Écritures. Demandez aux autres aussi. On peut demander. Paul ou Christian peut donner un helmet. Pose les questions au Seigneur. Ce n'est pas le message, mais si vous avez un manque de conviction et vous avez un verset devant sur vos yeux, je ne comprends pas. Pose les questions au Seigneur aussi. C'est lui qui donne l'explication et la conviction, mais bien sûr, il peut m'utiliser, il peut les utiliser les autres aussi. Tout ça pour expliquer ce matin que les Écritures sont profitables pour chacun de nous. Et ce matin, ce n'est pas exactement le cerveau de l'Ancien Testament, mais on va regarder le livre d'Exode. On va regarder la première partie du livre d'Exode. Exode est le deuxième livre après Genèse. Je sais que vous êtes des bons étudiants de la Bible, et certains, nous sommes, qu'est-ce qu'on dit, débutants, on est en train de commencer. Donc voilà, on commence de nouveau. Et je vais expliquer dans une façon plus claire. Exode est écrit par Moïse. C'est le deuxième livre dans cinq livres. Le premier cinq livres s'appelle le Pentateuque. Donc pour les Juifs, c'est la Torah. C'est vraiment important. C'est les livres, cinq livres le plus important. Genèse, les fondations et les commencements. C'est important d'avoir une compréhension de les fondements de notre existence, en fait. Ce que Dieu a fait, Donc, Genèse parle de quatre personnages et quatre événements. Je ne vais pas dire quoi, on peut poser la question après, ce n'est pas le but de le message. Mais Exode, la rédemption des Juifs, en fait. À la fin de Genèse, Joseph a sauvé tous les descendants d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Et Joseph était un fils de Jacob. Il avait 12. Et lui, par le complot de ses frères, était envoyé en esclavage en Égypte. Afin d'être dans le plan de Dieu, d'être une protection, un abri pour les fils de Jacob, d'être pour la famille. Et nous avons Joseph, le deuxième dirigeant en Égypte. Deuxième. Et avec certain temps, on a une famine. Et dans la famine, qu'est-ce que se passe en Canaan? Le peuple, Jacob et ses fils descendent pour chercher nourriture parce qu'il n'est plus. Joseph était la provision de Dieu pour garder le peuple dans un terrain étranger. C'est un terrain étranger? Voilà. Égypte, c'est le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. 400 ans passent. 400 ans. Maintenant, il est 2, 3 millions juifs. On peut dire, on va dire, pour être plus précis, le peuple d'Israël. Donc, les héritiers d'Israël, Canaan. Mais avant ils passent de posséder le terrain promis par Dieu, il faut passer par un moment de difficulté en Égypte. Et nous avons passé maintenant d'un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Donc maintenant c'est un dictateur rigide et qu'est-ce qu'on peut dire, qui amène la lourdeur dans le peuple. Donc c'était un moment éprouvant et difficile pour Israël, en train de crier au Seigneur, au secours, aide-nous. Évidemment, Moïse, un juif, un éprouve, on peut dire, était parti du même peuple, mais il était élevé dans le palais de Pharaon, adopté. Et lui, il va être utilisé par le Seigneur pour amener le peuple d'or, délivrance d'Égypte et Pharaon. Et le plan final, on dit en anglais the end game, le fin de jeu, je crois en français, est d'amener le peuple, passer par le désert, et d'arriver et rester en Israël. De finalement occuper le terrain, la terre de promesse donnée par le Seigneur. D'entrer dans les promesses de Dieu. Mais entre le début avec Moïse et ce moment, il avait quatre livres. Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et après, on passe dans la conquête de Canaan avec Josué, la division entre les 12 tribus, et après, on passe dans le livre de Juges. Donc, j'ai fait mon job, j'ai expliqué un peu le Pentateuque et le contexte de notre message ce matin. Et j'espère de faire la même chose jeudi soir pour le survol. Mais de tourner, il y a des enseignements et les personnages importants et applicables pour nos propres vies. Quand on voit cette histoire, j'ai donné déjà l'histoire. Qu'est-ce que se passe? Égypte est le premier point que je vais amener. Tous dans le début de Exode, après le chapitre 12. C'est là qu'on va rester. Égypte représente le monde. Pourquoi? C'était un pays étranger avec des idoles, avec les faux dieux, avec un peuple sous l'autorité d'un roi qui s'appelle Pharaon. Un peuple avec des autres valeurs, un système, pas juste un pays, un système de pensée et d'esprit qui est opposé de la vie de Dieu, tous les principes, toutes les valeurs pour les Juifs, le peuple d'Israël. Donc, ils sont maintenant 2 ou 3 millions hommes et femmes et enfants enfermés en fait dans ce pays qui était originellement la provision de Dieu pour multiplier le peuple et protéger dans une famine. Donc ce n'était pas le péché d'être là dans le premier cas, mais maintenant c'est le temps de partir. Application, première application pour nous, si Dieu nous amène dans un domaine de notre vie, exemple, un travail, c'est la provision de Dieu. Et la grâce de Dieu reste avec nous pour nos situations quotidiennes, pour supporter certaines situations difficiles. Chacun de nous, on a reçu une grâce quotidiennement pour nos vies, pour supporter des choses. Georges conduit les taxis. La provision et la fidélité de Dieu est avec toi tous les jours. Ce n'est pas facile, évidemment. Il travaille les nuits, des fois ce n'est pas facile. Mais Dieu est toujours avec lui de protéger, de garder, de donner la sagesse et donner peut-être des contacts pour parler de ta foi. Donc, vois chacun de nous, il y a une provision. Il y a une portion de grâce acceptant la provision de Dieu. Il y a un moment que c'est le moment de partir. On ne peut pas rester toujours dans la même chose avec les mêmes visages, les mêmes têtes, le même personnage, le même milieu. Peut-être le Seigneur dit, moment de partir. La grâce n'existe plus. Pour les Israélites, pour les peuples d'Israël, maintenant c'est l'oppression par Pharaon. Une pression pour écraser et déhumaniser et enlève la dignité d'un peuple. Pour lui, c'est de simplement contrôler. Et Égypte représente, comme je dis, un système qui impose des valeurs opposées de la vie de Dieu. Est-ce que nous sommes dans un système? Oui, mais on n'est pas partie de ce système. Ce n'est pas notre identité. Est-ce que Dieu peut nous utiliser sur la terre? Oui, il peut le faire. Mais finalement, on n'a aucune connexion avec ce système mondial qui contrôle les valeurs des gens et fait un lavage de cerveau. On est un peuple à part, mis à part par Dieu. Donc, la bonne chose pour le peuple de Dieu, ils ont crié au secours, Seigneur. Ça veut dire, accepte pas de rester en Égypte. C'est un système. Et je vais ajouter quelque chose plus. Le peuple d'Israël, évidemment, esclave. Mais les Égyptiens, également esclaves, sont dans ce système qui est impersonnel. Pourquoi qu'ils sont esclaves? Parce que le même maître impose la pression sur ses épaules aussi. Donc, ce n'est pas juste une question des Hébreux. C'est une question de chaque Égyptien. Peut-être séduit, peut-être aveugle avec les yeux fermés, mais esclave aussi. avec une identité enracinée dans ce système mondial qui s'appelle Égypte. Aujourd'hui, nous sommes dans la même situation. On voit nos amis, nos frères, nos sœurs, aveugles, en train de vivre dans ce système avec les, qu'est-ce qu'on dit, les privilèges du système. Mais comme je dis, je ne sais pas, je pense que c'était avec ma femme, on était dans un endroit avec beaucoup de bling, 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 beaucoup de choses orées, impressionnées. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Les trésors qui attachent et attirent les intentions avec nos yeux. Ah, je veux acheter ça. Ah, c'est une Rolex. Oh, si j'ai une Rolex, wow, je vais être un homme ou une femme. Ah, je vais acheter cette robe. Si je robe, mon mari m'aime si je prends cette robe. Oui, ça s'appelle les fictions directrices. C'est des mensonges pour nous séduire d'être toujours dans ce système avec une espérance de gagner quelque chose. Ils sont des prisonniers dans une prison avec les murs, avec les barrières, doré, merci. Ça veut dire l'impression que c'est confortable. En réalité, c'est une prison. Toujours, on ne peut pas bouger. C'est toujours une prison. Et les Égyptiens sont dans cette prison. Le deuxième personnage, la deuxième chose que je voudrais tirer de ce passage en Exode, Pharaon. Pharaon est un roi. Il est un personnage. Il est chair et sang comme nous sommes chair et sang. Un humain. Il avait été né et il va mourir. Donc, un commencement et une fin sur la terre. Mais Pharaon, en Exode chapitre 1, a dit, quand il était confronté, en fait, Exode chapitre 4, pardon, je ne connais pas le Seigneur. Et en fait, en Exode chapitre 1, il ne connaît pas Joseph. On dit, oh, il ne connaît pas, mais peut-être s'il a croisé Joseph, ça va être différent. Il n'a aucune entrée et aucune connexion avec Joseph, ni avec le Seigneur. Autrement, on est en train de dire, il a dit, je ne veux pas accepter le Seigneur. Je suis Dieu. Je prends ma décision. Non, pas lui. Donc, ce n'est pas une question de la puissance de Dieu, l'autorité. C'est un homme qui a dit, je suis roi et je vais régner pour moi-même. Hitler, Staline, Pol Pot, Genghis Khan peut-être, certains caractères, personnages dans l'histoire, le même corps. Toujours comme ça. Est-ce qu'on est des dictateurs sur la terre comme ça maintenant? Oui. Il avait toujours des gens comme ça, avec une certaine puissance. Pharaon représente le diable, un dirigeant avec aucune miséricorde pour le peuple. Il est là juste pour écraser. Il vit pour lui-même. S'il est plus de Égyptien dans le pays, il va dire, ok, je vais chercher quelqu'un d'autre pour diriger. Ce n'est pas une question d'Égyptien contre le peuple d'Israël, c'est plutôt une question de lui qui impose sa volonté sur les autres. Exemple, Jean chapitre 3, verset 8. Jésus-Christ, en train de parler de Jésus. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Maintenant, le deuxième partie de la chose. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire des œuvres du diable. Ça veut dire que le diable est en train de faire des œuvres sur la terre. Il impose un système impersonnel avec aucune miséricorde, avec aucune entrée pour nous. C'est toujours le même. Quand vous regardez un exemple, une facture, on a reçu, est-ce que nous avons reçu des factures cette mois de payer? Est-ce que nous avons noté numéro de clients? On est tous un numéro. On est un chiffre, on n'est pas un homme. C'est un système et le diable ne voit pas comme Priscilla, pas comme Céline, pas comme Alfredo, pas comme Jacqueline. Pas par nom. Il nous voit comme un chiffre parce que pour lui, on est juste un être pour être manipulé. Le diable veut nous détruire. Il est là pour ça. Il n'a aucune entrée dans nos vies, nos besoins, nos rêves. Lui, s'il peut, il écrase comme ça. Il est capable, il a la puissance. Il veut être comme Dieu, mais il ne peut servir le peuple comme un Dieu avec humilité. Lui, il veut simplement avoir la puissance. Et Pharaon était exactement comme ça. Exemple, lui, il a laissé les plaies, les 10 jugements de Dieu, on va parler dans une minute, d'écraser le peuple égyptien, de détruire et tuer les bœufs et éradiquer les céréales, éradiquer toute l'agriculture. Pourquoi? Parce que son orgueil est tellement immense que lui, il est plus intéressé de lui-même. C'est moi, moi et moi. Ésaïe 14, pour votre devoir, si vous voulez, regarde les passages qui parlent de Lucifer. Je, 5 fois, je vais le faire. Je veux ça, je veux. Est-ce que c'est quelque chose qui sonne dans nos cœurs? Est-ce que c'est une résonance? Est-ce que nous avons entendu quelqu'un qui dit « Je veux ça, je veux ça ». C'est le cri du diable. Dans la finalité, il veut posséder quelque chose. Il n'a aucune pitié pour nous. Il va détruire le peuple s'il peut. Heureusement, il y a un reste sur la terre. Il s'appelle l'Église de Dieu. On est partie de cette Église. Et on est protégé contre le diable. Et le peuple d'Israël sont choisis et protégés également par Dieu. Mais il faut savoir, on est un dictateur brutal qui met des empreintes, qui met une trace sur la terre. On s'appelle les dictateurs. Dictateur peut être quelqu'un qui était un dictateur du monde. Et un jour, il va être un dictateur, s'appelle Antichrist. Ou votre voisin, qui est toujours dans sa mesure de sa vie, veut imposer des choses. Donc, il est un tyran, un dictateur dans sa famille, dictateur dans son travail. On peut dire, c'est le caractère du diable. Est-ce que mon voisin est un antichrist? Non. Il est comme moi, mais est-ce que le diable peut utiliser mon voisin? Oui, il peut. Donc, nous sommes protégés contre beaucoup de choses, mais il faut avoir les yeux ouverts. Un chef d'entreprise, un premier ministre, un policier, un douanier, quelqu'un en authority qui cherche authority pour lui-même, un antichrist, oui. Un dictateur comme Pharaon. Heureusement, lui, il ne va pas avoir le dernier mot. Donc, Pharaon, première chose, Égypte est comme le monde, un type. un exemple du monde comme nous avons, un monde système qui écrase, détruit, impose, enlève dignité. Pharaon, qui utilise le système pour faire ses plans, pour accomplir ses plans. Donc, wow, vous êtes en train de dire, c'est pas la bonne nouvelle, pasteur. Est-ce que tu peux prêcher quelque chose d'édifiant ce matin pour nous? Oui, oui, on va avoir quelque chose d'édifiant dans quelques minutes. La prochaine chose, les jugements de Dieu, les 10, qu'est-ce qu'on dit, fléaux ou plaies? Plaies, on peut dire ça? C'est des disciplines, c'est des jugements de Dieu. On est 10. L'eau changée en sang, Exode 7, verset 20. Les grenouilles, Exode 8, verset 2. Les moustiques, Exode chapitre 8, verset 17. Les mouches qui piquent, Exode chapitre 8, verset 24. Les pestes contre les bétails, contre les vaches, Exode 9, verset 3. Les pustules, c'est quelque chose comme un cancer, quelque chose qui attaque le peau. Exode 9, verset 12. Les grêles. On a les grêles, c'est des fois, les grêles descendent dans un orage et bouf, les voitures sont, qu'est-ce qu'on dit, marquées et peut-être un peu détruites. Donc, voilà, ça c'est un jugement, ça c'est pas pour nous évidemment, mais plutôt pour l'Égypte, oui. Les sauterelles qui ont dévoré tout l'agriculture, ont levé toutes les verdures. Les ténèbres, donc presque quelque chose de tangible, c'est noir, aucune lumière pour les Égyptiens. Est-ce qu'on peut imaginer comment ça passe? Personne ne peut sauter du lit, personne ne peut regarder, personne ne peut voir l'autre, parce que les ténèbres sont tellement solides, tellement tangibles. Le crainte pour les Égyptiens, et finalement le premier-né tué par Dieu. Pour les Égyptiens. Évidemment, dans tous les cas, il était une provision de Dieu et Dieu a toujours dit, arrête les bêtises, Pharaon, laisse mon peuple de partir. Repente, accepte, c'est moi qui en contrôle, laisse le peuple de partir. Et le pharaon dit non, 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 parce qu'il était têtu. C'est l'orgueil qui oppose Dieu. Et en train de voir progressivement les disciplines de plus en plus dures, plus en plus d'opposés. Donc, dans ce monde, est-ce qu'on passe par des choses des fois? Est-ce que le COVID, est-ce que la guerre en Ukraine, est-ce que les autres maladies et les pandémies, les épidémies, est-ce que des problèmes financiers, l'économie, est-ce que Dieu peut être en train d'utiliser certaines choses pour, en fait, qu'on est averti, en fait, que les gens qui dirigent nos pays, ils sont en train de dire, au secours, voilà, c'est trop tard, tourne, avant, c'est trop tard. Le Seigneur fait tout avec amour pour attirer l'attention du peuple. Est-ce que ces 10 jugements sont contre des individus? Non. C'est contre un système qui a posé et emprisonné le peuple pour laisser le peuple de partir. Dieu va faire tous pour libérer son peuple. C'était une confrontation contre le diable directe. Donc, les jugements sont faits avec mesure précis, ciblé pour un moment avec un commencement et une fin. C'est l'homme qui juge, c'est aucun contrôle, c'est une colère immesurée. Mais Dieu est tellement précis, il nous aime, que quand il exprime son colère, c'est petit, c'est pour un moment, et c'est enlevé. Parce qu'il veut, avec amour, montrer qui il est et qui nous sommes pour lui. Il veut nos cœurs. Donc, les plaies. Et maintenant, on va tourner de quelque chose un peu plus joyeux. Le peuple de Dieu qui crie à Dieu. Quatrième point. Comme nous. Seigneur, aide-moi, je suis dans ce système. Et on a été sauvés de le moment où on a dit, on réalise que la vie est comme une prison. On est dans un système qui nous oppose. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Oui, il y a quelque chose de plus pour nos vies. Et on réalise que nous sommes dans ce système. Et comme pour le peuple d'Israël, on crie vers Dieu et Dieu, ah, je vais aller, je vais aider, je vais sauver mon peuple, libérer sur l'esclavage, sur ce système qui écrase, qui oppose, qui fatigue. On est sur la terre pour un petit temps, mais un jour, on lève. Il faut savoir ça. On est une équipe de sauvetage. On est sauvage peut-être aussi avec le diable. Sauvetage, merci. Je vois que vous êtes en train d'écouter. Super. On est une équipe de sauvetage pour ceux qui sont toujours les esclaves. Et on dit, écoute, on est quelque chose qui peut changer pour votre destin éternellement. Tourne, viens, vous n'avez pas besoin de rester dans ce système. Sorte le problème de vos vies. Vois le Dieu qui est la solution. Et nous sommes cette équipe. Pourquoi que nous sommes toujours sur la terre? Donc, on est là pour aider. Et maintenant, on arrive à un cinquième point. Moïse. Envoyé par Dieu, Moïse est un type de Jésus-Christ. Il est là pour sauver le peuple. C'est là pour délivrer le peuple. C'est Dieu qui impose les disciplines pour réveiller Pharaon, évidemment. Mais c'est Moïse qui va être là comme un berger pour conduire le peuple de partir d'Égypte. Et lui, il va vivre avec le peuple, il va supporter les bêtises, les murmures, les caprices, merci, c'est le mot que je cherche. Les caprices d'un peuple charnel, mais libéré de l'esclavage. Un homme qui a vécu 40 ans dans le désert, un homme qui a été choisi, évidemment érudit, évidemment un étudiant, évidemment privilégié en Égypte, mais il a passé à 40 ans dans l'humilité dans le désert. Jésus-Christ, envoyé par le Père, reste 30 ans sur la terre, en obscurité. Et quand il arrive, il est comme un homme humble, évidemment un homme, mais un berger pour son peuple. Délivrance, la mission, la fin de jeu, crucifixion sur la croix, pour notre délivrance et pour toute l'humanité. Donc, Moïse était un type de Jésus-Christ pour libérer le peuple, pour parler avec Pharaon, pour confronter cet homme diabolique, cet dictateur, et de dire, c'est la dernière fois, laisse mon peuple libre. Et nous avons Dieu qui n'est pas indifférent de les cris des prisonniers. Nous avons le diable qui impose son autorité comme ça. Mais nous avons quelqu'un d'autre, Dieu lui-même, qui est l'autorité ultime. Mais lui, il aide pas être là. Pas là. Ça veut dire, c'est lui qui a prié, qui a gardé, qui a supporté nos faiblesses. C'est lui qui lave nos pieds. C'est lui qui écoute nos cris. Il n'était pas là. Ultimement, il est là, maintenant. Dieu n'est pas simplement sur son trône. Il est en action avec son peuple, nous, pour servir, toucher, parler, communiquer, aimer, communiquer. On est là pour ça. On est là pour rendre un Dieu qui est évidemment invisible, visible par nous, par nos mains, par nos jambes, par nos pieds. Un Dieu qui n'est pas distant, mais un Dieu qui est proche. Lui n'est pas ici. En Apocalypse chapitre 2 et 3, Jésus-Christ marche comme ça avec son Église. Ça veut dire proche avec nous. Ça veut dire personnel avec nous. Ça veut dire il nous regarde face à face. Ça veut dire il est engagé avec nos problèmes. Il n'est pas distant. Ah, ils sont tous impurs. Non, il est physiquement comme ça. S'il peut vivre 30 ans sur la terre et accepter de supporter la vie sur la terre, comment plus il peut être avec nous maintenant? C'est notre Dieu. Égypte, Pharaon, les maladies et le jugement, Moïse et Dieu. Et après, libération pour son peuple. Vois comment un livre pour instruire les principes pour la vie pour chacun de nous. Ce n'est pas juste un livre historique. C'est un livre qui révèle le même Dieu qui ne change jamais, qui nous aime, qui est pour nous, qui connaît nos cœurs et toutes les dépravités dans notre ancien cœur, mais il a nous choisi et nous sauvé. Et nous sommes là pour servir. Est-ce qu'on est capable? Non, mais qui est capable? Lui. Il va amener lui-même en nous de vivre. Donc, voir comment une vraie histoire peut avoir des applications pour chacun de nous. Et comment on peut être utilisé par Dieu, équipé pour communiquer sa vie envers les autres. Et il est vraiment un besoin de ça sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce moment. On a sur la terre avec la bonté de Dieu, avec un Dieu qui est fidèle, qui ne va jamais changer, qui est pour nous, qui est la grâce pour chaque jour. Merci Seigneur de nous enseigner, aide-nous de vraiment méditer sur les choses que nous avons entendues aujourd'hui. Et de voir, il y a beaucoup plus pour nos vies. On n'accepte pas d'être limité dans un petit vie, mais d'avoir un grand vie avec une soif pour toi, Seigneur. Et que cette église peut grandir, qu'on peut avoir de plus en plus de visiteurs, plus en plus de gens sauvés, des disciples, Seigneur, que l'Institut biblique peut grandir, que notre œuvre dans cette église peut être manifestée, unité avec nos autres églises, connexion avec nos frères et sœurs ailleurs. Et vraiment, Seigneur, qu'on peut marcher dignement de toi, Seigneur, sur la terre. Merci de nous aider de racheter le temps. Merci, Seigneur. Bénis notre journée maintenant. Amen.